L'émission 100% Rouge et Noir, c'est tous les mercredis à 19h sur 100%.
Avec Debar Automobile, vendeur multimarque depuis 30 ans, à retrouver sur debarautomobile.com.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue, c'est 100% Rouge et Noir, autour de la table ce soir pour débattre celui qui monte en Fédéral 3 avec son équipe de l'AS Bressol, Maxime Prat, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Il y a la victoire modeste. Hein.
Notre journaliste Gilles Gauthier, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Notre invité ce soir c'est Joël Mercler, le pilier du Stade Toulousain qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Au sommaire de ce 100% Rouge et Noir, Gilles.
Le journal du Stade, le débat 100%, Thomas Ramos a loupé sa prestation face à Toulon, son taux de réussite au pied est en baisse, Thomas Ramos. C'est quoi le problème? On en débattra. Ensuite, ce sera la fan zone. On entendra le débrief des supporters toulousains après la défaite au RCT, face au RCT. Et puis le Racing arrive à Ernest Vallon pour la 22e journée du top 14. Encore une balade pour le stade ou un match piège? Maxime Prat nous donnera son avis d'expert. Et enfin, l'interview de notre invité Joël Mercler en deuxième partie d'émission.
100% Rouge et Noir, le journal du stade.
Benjamin Bertrand a fait sa première en pro ce week-end.
Oui, le tout jeune pilier toulousain est entré à la 72e minute en remplacement de Rodrigue Netti. Il est tout juste âgé de 20 ans, champion de France Espoir à la saison dernière. C'est un pur produit rouge et noir puisqu'il évolue au club depuis qu'il a 6 ans.
Et c'était le 150e match de Thomas Ramos.
150e match en pro de Thomas Ramos avec le stade, malheureusement soldé par une défaite. On reparle de Thomas Ramos dans le débat.
La demi-finale de Champions Cup se jouera à guichet fermé.
Toutes les places sont parties en seulement 20 minutes. La demi, c'est le dimanche 5 mai au Stadium de Toulouse. À suivre évidemment en intégralité sur 100%. La demi, c'est Toulouse-Harlequins.
100% rouge et noir, le débat 100%.
Pour son 150e match en pro avec le stade, Thomas Ramos n'a pas forcément brillé face à Toulon. En toute fin de match, il a raté la transformation qui aurait permis aux Rouges et Noirs de l'emporter. Ces derniers temps, ses prestations sont inégales et sa place de titulaire pour la demi-finale de Champions Cup semble menacée. Alors Thomas Ramos, c'est quoi le problème?
Docteur Prat, c'est quoi le souci là?
Bon, après, il faut pas non plus en faire... Il est passé certes à côté samedi, mais c'est vrai que ce qui est plutôt inquiétant quand même, c'est plus sa non-réussite au pied, qui est pas non plus... La transformation, elle était quand même en coin, il rate pas des pénalités non plus face au poteau. Mais c'est vrai qu'il a un peu chuté. Alors, depuis le mondial,
il y a eu une loupée face au poteau, mais elle était à 45 mètres.
Oui, tout à fait. Samedi, mais je parle plus de la transformation en fin de match qui n'était pas évidente. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. On a tellement été habitué à la perfection avec pratiquement 90%, voire 95% de taux de réussite pour Thomas Ramos. Là, c'est sûr que lorsqu'il rate des pénalités, ben à la fin du match, ça compte. Après, c'est sûr qu'il n'est pas dans une phase non plus. Où il est hyper à l'aise aussi dans le jeu. On l'a vu un petit peu en difficulté également sous les ballons hauts. Ah oui. Moi, je trouve qu'au final, je me demande s'il n'est pas meilleur en 10 qu'en 15. C'est vraiment une réflexion que je me fais depuis quelques temps. Parce qu'il a quand même fait un bon tournoi destination au poste numéro 10 lorsque Jalibert s'est blessé, avec notamment une belle performance contre l'Angleterre et au Pays de Galles. Et je trouve qu'en numéro 10, c'est vraiment lui qui peut vraiment gérer le jeu, apporter toute sa qualité technique, sa vision du jeu. Et je trouve qu'à l'arrière, sous les ballons hauts, il est souvent quand même un petit peu en difficulté.
Il manque de taille.
Il manque un petit peu de taille, je trouve.
Et de vitesse.
Et en plus, il a eu sa petite blessure là, qui l'a empêché de jouer pendant 2 ou 3 matchs. Donc non, il n'est pas sur une bonne phase. Après, je ne suis pas forcément inquiet pour lui, parce que Thomas Ramos, c'est quand même un joueur qui, depuis le début de sa carrière, des hauts, des bas, il en a connu. Il a eu du mal au début à s'imposer. Il est allé à Colomiers, il est revenu. En équipe de France, il n'était pas appelé. Il n'a jamais lâché. C'est quand même un joueur qui, mentalement, est quand même très très fort. Donc voilà, il a une petite passe compliquée, en plus une concurrence qui est féroce au Stade Toulousain, et je pense que tout ça fait que ça doit un petit peu gamberger dans la tête.
Effectivement, moi, il y a deux choses. Moi, je pense qu'il y a un avant et un après Coupe du Monde. Il est revenu pas forcément pareil après la Coupe du Monde. On se rappelle que il y a cette fameuse transformation contrée par Colby, qui, je pense, lui reste dans la tête.
Chaque fois qu'il bute,
son taux de réussite au pied n'est pas le même à baisser par rapport à l'avant-coupe du monde. Donc, je ne sais pas si c'est une des explications, mais ça peut. Sachant qu'il disait dans une interview que, à l'extérieur, notamment, pas à Toulouse, mais à l'extérieur, quand il bute, on lui rappelle, on lui dit, fais attention, Colby, etc. Donc, on lui remet tout ça, sans arrêt, ça sur la figure.
Alors, peut-être que c'est possible, mais si c'est ça, franchement, ça veut dire que, quand même. Alors, comment dire, ça prouve.
Pas que le chambrage, mais. c'est quelque chose qui lui est resté.
Quand t'es buteur, t'es habitué à te faire siffler, à te faire chambrer, à te faire. Ça n'a jamais été un problème pour lui.
Je parle pas du chambrage, je parle de le fait de s'être fait contrer par Colby. On était en quart de finale de Coupe du Monde, on était à domicile. Et ça a participé, quoi qu'on en dise, à la défaite, parce que du coup, au final, il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes sur le score final. Donc peut-être que ça, il a du mal à le digérer.
Après, il faudrait regarder si peut-être. Alors ça, techniquement, il faudrait vraiment le regarder avec précision. Est-ce qu'il a aussi peut-être changé sa technique de.
Je crois pas, course d'élan,
de course d'élan, etc. Parce que c'est vrai qu'il avait une prise d'élan qui était quand même assez. D'ailleurs, Colby l'avait dit, je le connaissais par cœur à Thomas Ramos. Et je savais qu'il mettait du temps lors de sa prise d'élan. Et c'est pour ça que du coup, il avait ce fameux contre. Alors est-ce que c'est peut-être ça qui le perturbe dans son but? Mais. Enfin, moi, j'y crois pas à ce genre de choses. Il faudrait lui demander. Il n'y a que lui qui pourrait nous dire oui, c'est vrai que bon, ça me perturbe, j'y pense avant de buter ou j'y pense pas. Mais bon, ça me paraît quand même. Mais c'est possible aussi. Mais
je pense aussi
dire,
que, comme vous, que la question du poste va se poser parce que là, Gédin, alors il n'est pas vieux, il a que 28 ans. Mais il ne va pas gagner en vitesse, quoi qu'il arrive. Il manque, je trouve, un peu de vitesse à l'arrière et de taille sur les ballons hauts. Et je pense, comme l'a dit Karine, que sa place sur la demi-finale Champions Cup est vraiment menacée. Là, je ne le vois pas, Hugo Mola, après ce qui s'est passé, tout ça, entre les performances de Kinghorn, le match, bon, qui n'est pas forcément complètement raté de Ramos à Marseille, mais il nous a buté à beaucoup mieux, je ne le vois pas le faire débuter en Champions Cup. Et en plus, imaginons, il ne débute pas en Champions Cup en demi-finale face aux Harlequins, ça se passe bien pour le Stade, ben derrière, vous allez enclencher avec la même équipe, vous ne changez plus d'équipe. Ça veut dire que toute la fin de saison, c'était un petit peu le débat qu'on avait la semaine dernière.
Oui, c'est le débat qu'on
avait
la semaine dernière, il y a trois joueurs pour deux postes.
Il peut passer toute la fin de saison, sur le banc des remplaçants, sachant aussi qu'on l'a dit aussi, c'est le remplaçant idéal. Il peut rentrer en 10, il peut rentrer en 15, il est buteur.
Ah non, mais c'est sûr que quand t'es entraîneur, c'est un luxe, mais c'est un choix quand même pas facile. Mais
je vois pas là ce qui pourrait inverser la tendance. On va voir ce qui va être décidé et quelle équipe va être alignée face au Racing. Mais à mon avis, face au Racing, ça va être l'équipe qui va débuter pour la Champions Cup.
Après, il faut pas oublier que sur toutes les saisons dernières où le Stade a eu gagné des titres, notamment en 2019, en 2021, même l'année dernière, souvent Thomas Ramos, souvent était l'homme du match dans les gros matchs de phase finale, des matchs vraiment qui comptent, des finales. Alors je dis pas que le match à Marseille c'était pas un match qui compte, attention, mais dans les matchs qui comptent, les vrais matchs de phase finale, et aussi notamment au poste de numéro 10, parce que la finale 2019 et la finale 2021, il a fait à ce poste-là. Il fait une finale en 2021 où il claque une robe, il fait un match XXL contre La Rochelle. Et donc moi je suis pas forcément aussi fermé. Il faudra voir aussi comment Romain Tamac réagit. Il a fait 2-3 matchs plutôt corrects, plutôt bons même. Ouais. Mais est-ce que peut-être au final, moi je suis persuadé que Thomas Ramos aujourd'hui a plus un avenir au poste
en
numéro 10.
Ah oui.
Et surtout que Kinghorn a un profil aérien à l'arrière qui colle complètement avec un jeu moderne, avec le jeu du Stade Toulousain.
Ouais.
Et au final, je me demande si c'est pas une concurrence plus Tamac Ramos qu'il va y avoir sur la fin de saison. C'est possible.
Fin de ce débat, messieurs, on va maintenant prendre le pouls des supporters.
100% rouge et noir.
Dans la fan zone, on va voir ce que pensent les supporters du Stade. Ce soir, c'est Jean-François qui débriefe la défaite contre Toulon.
Match qui était gagnable s'ils avaient conservé notamment certains cadres, car les jeunes n'ont rien à se reprocher, bien au contraire, s'ils avaient insisté pour jouer leur jeu habituel. Et on ne peut imputer la défaite à Ramos qui a très souvent sauvé le Stade et fait gagner le Stade. Quant à la deuxième mi-temps, en jouant à 15 contre 14, le Stade n'a pas l'habitude de perdre ces matchs-là, mais c'est par manque d'ambition dans leur jeu naturel.
L'émission 100% rouge et noir, c'est tous les mercredis à 19h sur 100%.
Avec Debar Automobile, vendeur multimarque depuis 30 ans, à retrouver sur debarautomobile.com. Bienvenue dans l'émission 100% rouge et noir. Si vous arrivez, on va maintenant parler du Racing 92.
100% rouge et noir, l'avis de l'expert.
Le Stade n'a pas perdu cette saison face au Racing 92. Une victoire en top 14 fin janvier à l'Arena et un autre succès il y a 3 semaines en Champions Cup. Samedi soir, le Stade reçoit de nouveau le Racing. Alors faut-il s'attendre de nouveau à une balade toulousaine? Quel est votre avis d'expert, Maxime Prat?
Non, je pense pas. Je pense que c'est un match piège. Match piège parce qu'il est une semaine avant la fameuse demi-finale Champions Cup qui attire toute l'attention du club, des joueurs. Enfin, c'est normal, une demi-finale à la maison. Très 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 longtemps que c'est pas arrivé pour les Toulousains. Et ça me rappelle un petit peu le match que les Toulousains avaient fait contre Pau qui était fin février, me semble, juste avant le...
Qui était avant le 8e de finale.
Fin mars, pardon, juste avant le 8e de finale, qui avait été un match très très compliqué pour les Toulousains, qui avait en plus mis quand même l'équipe type, et qui avait été en difficulté. Alors, je pense que c'est une semaine compliquée pour Hugo Mola, parce que tu dois te dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met toute l'équipe type? Est-ce qu'on en fait encore reposer, sachant qu'on en a fait reposer à Toulon?
Non, mais là, il va remettre l'équipe type, à mon avis.
Je pense qu'il va remettre l'équipe type, mais des fois, c'est... On a vu qu'en faisant ça... avant le match contre le Racing à Champions Cup, ça n'a pas forcément été une réussite. Ils ont fait passer à la trappe contre Pau et le Racing.
Mais sur ça, juste sur ça, ils disent en fait qu'à chaque fois qu'il y a un match de championnat avant un match de Coupe d'Europe qui puisait de phase finale, le match de championnat avant, il est toujours compliqué à négocier.
Ah oui, non,
si vous avez l'équipe type, même si vous êtes en forme, même si c'est genre, je sais pas comment l'expliquer rationnellement, mais c'est toujours compliqué.
C'est inconsciemment, les joueurs, tu prépares un match toujours pour le gagner, pour faire le maximum, mais t'as quand même un coin dans ta tête, tu sais que dimanche prochain ça va être le match de l'année pour faire une finale, donc c'est toujours un peu compliqué. Puis t'as surtout en face, je pense, un Racing Metro qui lui par contre va venir sans complexe, vraiment libéré. Je pense qu'ils vont mettre leur équipe type et ils vont essayer de venir faire un coup à Toulouse. Donc non, c'est un match qui va être piège, mais je vois quand même les Toulousains gagner, puisque bon, ils sont vaincus à la maison et ils sont quand même au-dessus.
Depuis deux ans.
Je pense qu'ils gagneront, mais je les vois pas se balader comme ils se sont baladés pendant le 8e de Champions Cup.
Sachant que le Racing en top 14 est certes 3e, mais n'a que 5 points d'avance, 7 points d'avance sur le 7e, donc le non qualifiable Pau. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont besoin de points aussi.
Et puis en plus, le Racing, ils n'ont pas de demi-finale de Coupe d'Europe le week-end d'après. Donc eux, toutes leurs forces vives seront présentes. Ils ne vont pas faire tourner, ils vont mettre le paquet. Parce que c'est quand même s'il y a une très très belle équipe de Toulouse sur le papier, c'est quand même toujours des moments particuliers d'affronter Toulouse une semaine avant des matchs aussi importants qu'une demi-finale de Champions Cup.
Et puis rappelez-vous, en huitième de finale de Champions Cup, c'était un Racing amoindri qui avait affronté le Stade Toulousain. Hein. La charnière, c'était le Bay Teder. Là, ce sera a priori le Garek Gibert qui était là déjà le week-end dernier quand ils ont gagné à Oyonnax. Ils ont mis quand même 43-13 à Oyonnax. Alors certes, Oyonnax commence à lâcher maintenant.
Oui, oui.
Se dirige vers la Pro D2, mais ils ont quand même passé 6 essais. Il y a eu un Ficou en forme qui revient en forme, qui n'était pas terrible pendant le tournoi, là, qui a fait quand même des belles choses. Donc là, ils ont juste Colisi qui est forfait encore. Il s'était fait mal au doigt, il s'est fait opérer, il est encore forfait. Après, ils ont quasiment tout le monde dans l'effectif, et surtout la charnière qui tient vraiment la baraque et l'équipe, le Garek Gibert. C'est le jour et la nuit avec le Bay Teder, et c'est ça qui va changer la donne.
Ça va changer. Puis après, le point positif quand même pour le Stade, c'est qu'il y a quand même sur l'équipe type, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont quand même en balance. Hein. Vous voyez, Movaka, Marchand, on a vu Marchand qui a fait un super match ce week-end, des Flamands, mais Ramos, etc. Donc il y a quand même des joueurs qui vont vouloir quand même essayer de gagner leur place ce week-end, et peut-être qu'il y en a qui jouent leur place pour le Champions Cup ce week-end contre le Racing. Donc sur l'état de forme, ça peut permettre aussi d'avoir des joueurs toulousains
à mon avis
concernés.
Les places de titulaire sont prises. Je pense que Hugo Mola, il a son 15
au talon. Au talon, je sais pas, moi.
Ah oui, ouais, alors effectivement, il n'y a que au talon où j'aurais un doute, mais le reste, je pense que c'est assez établi, c'est assez clair. Et là,
à 9, j'ai un doute.
Là où il y a des... Il blagueur aujourd'hui. Là où il y a des places à gagner, c'est sur le banc encore.
Oui, tout à fait.
Le banc, ça peut changer.
Ouais, ouais, exactement.
Et éventuellement en deuxième ligne.
Ouais,
Flamand. Willis met à fou, voir si Flamand joue d'entrée ou pas, mais a priori, on sera plutôt sur du... pardon, pas du Willis, du Arnold.
Exactement.
Arnold met à fou. Donc attention, match piège. Il faudra bien écouter la radio samedi après-midi.
Messieurs, il est temps maintenant de passer à l'interview de notre invité Joël Merclair.
100% rouge et noir, le CV de l'invité.
Bonsoir Joël.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur 100%. Ton CV, assez rapidement, tu me dis si je me trompe, tu m'arrêtes. 22 ans, débute le rugby en Catalogne espagnole au CR Sant Cugat. Intègre en 2016 le centre de formation de Sainte-Bois de Llobregat. Et puis ensuite, c'est le centre de formation du Stade l'année d'après, en 2017. Tu as été prêté au FCTT en 2020 avec le dispositif de double licence. Tu as débuté en pro avec le Stade le 29 octobre 2022 lors d'un déplacement à Bayonne. Champion de France Espoir en 2021. Champion de France avec les pros en 2023, la saison dernière, on s'en rappelle. Jusqu'ici, si tu te retournes un petit peu sur ta carrière, quel est ton plus beau souvenir?
Je crois que c'est la qualif avec l'Espagne à la Coupe du Monde. C'était en mars 2022, je crois que c'est quand on s'est qualifié contre le Portugal à la maison. C'était beaucoup d'émotions. Ou alors quand on est champion de France à l'espoir avec le Stade aussi.
En 2021.
En 2021, ouais.
Effectivement. Est-ce qu'il y a un regret jusque-là?
Ben, S'il y a un regret, c'est certainement la disqualification du coup de la Coupe du Monde.
Oui, avec l'Espagne où il y avait eu des problèmes administratifs, je crois, de joueurs qui ont joué mais qui ne devaient pas jouer.
C'est ça, exactement.
Ok. Oui, et du coup, t'as le regret de ne pas avoir fait la Coupe du Monde 2023 là ?
J'ai le regret de m'être qualifié et ne pas avoir pu y participer, oui.
Ouais, effectivement. Le joueur le plus fort avec qui tu as joué ?
Antoine, je suppose. Ouais, Antoine Dupont.
Antoine Dupont, sans surprise. L'entraîneur ou l'éducateur qui t'a le plus marqué ?
Thierry Savio. C'est le prépa physique ou entraîneur de la mêlée des esports. C'est lui qui m'a formé, qui a réussi à me faire passer de seconde ligne à pilier.
Ouais. T'as beaucoup appris avec lui ?
Ah oui, j'ai beaucoup appris. C'est lui qui m'a pris la mêlée ou qui m'a initié à la mêlée, qui m'a transformé physiquement aussi, il m'a fait bosser, il m'a appris à bosser, à être sérieux, à être carré dans la préparation. Donc c'est lui qui m'a beaucoup appris.
L'anecdote que tu n'as jamais racontée, quelque chose de racontable, on est à 19h sur 100%, mais je sais pas, dans le vestiaire, avant un match ou après match, j'en sais rien, quelque chose de qui s'est passé.
Il n'y a rien de fou, hein, honnêtement.
Ou tu as peut-être droit à un joker. Hein.
Ouais, j'ai un joker, hein, parce que rien de spécial.
Bon, ça va venir après dans la suite de la carrière.
100% rouge et noir. Le c'est vrai, c'est pas vrai.
Le c'est vrai, c'est pas vrai. Avec toi, Joël Mercler, trois affirmations sur toi. Tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Joël Mercler, il a pour ambition de jouer avec l'équipe de France.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Alors, on a vu que du coup, finalement, William Servat, t'avais appelé, t'avais parlé un petit peu de l'équipe de France, mais finalement, tu n'es pas éligible, c'est ça ?
Normalement, non. Donc, il n'y a pas trop d'ambition, comme c'est pas possible.
Ouais. Et ce serait plus pourquoi, toi ? Alors, continuer avec l'équipe d'Espagne ou d'autres choses encore ?
Bah, honnêtement, mon ambition principale, c'est de jouer avec Toulouse et d'être le meilleur joueur possible au stade. Mais après, j'ai pas d'autres. Enfin, au niveau international, j'ai pas aujourd'hui des priorités, on va dire.
D'accord. Deuxième affirmation, Joël Mercler, au début, il a rechigné à passer pilier parce que tu jouais seconde ligne.
Ça, c'est vrai.
Ça te plaisait pas ?
C'est pas que ça me plaisait pas, c'est que j'ai ramassé.
Donc, ah oui.
Souvent, j'ai ramassé beaucoup avec des mecs qui avaient un plus petit gabarit que moi, qui étaient moins bons que moi, mais qui en mêlée me tordaient parce qu'ils avaient fait des mêlées depuis plus longtemps. Et puis quand tu ramasses en mêlée, c'est jamais agréable. Moi, je me sentais relativement bon en seconde ligne. Je me disais que ça pouvait le faire, mais en fait, pas du tout. Donc, j'ai dû m'adapter. Et c'est par ailleurs Thierry Savio qui m'a fait comprendre et aider à me transformer, quoi.
Ouais, et c'est assez fou tout le travail que tu as effectué parce que tu as comblé tout ce retard.
Hein. Oui, c'est ça. Enfin, il en manque encore, mais bien sûr, oui. On a beaucoup bossé. Pendant un an et demi, deux ans, j'ai pas joué du tout. Un an et demi, j'ai pas joué au stade. Donc, j'ai fait que de la muscu, des mêlées, des radicales, des attitudes corporelles, quoi, on va dire, à la mêlée.
D'accord. Ouais. Troisième affirmation sur toi, Joël Mercler, il fait des études de sciences politiques.
Ça, c'est vrai. Je suis en deuxième année. Là, il me reste deux matières à valider et j'ai fini ma deuxième année. Ben, d'ailleurs, j'ai le partiel lundi prochain. Donc, oui, je suis en plein dedans. Et l'année prochaine, par contre, je commence un double diplôme avec un double master avec TBS. Donc, je ferai une année TBS, une année Sciences Po, une année TBS.
Toulouse Business School. Alors, ça, c'est rare. C'est même, je pense, unique en France pour un joueur pro de faire des études de sciences politiques. Hein.
Ben, je pense que oui, en sciences politiques, il n'y en a pas beaucoup. Après, il y en a qui font des études aussi. C'est pas commun, mais après, moi, j'étais bercé dans ça, vu que mes parents, mon père a fait sciences politiques à Manchester, parce qu'il est anglais, et ma mère a plusieurs philologies en langue. Donc, chez moi, ça a toujours été des études, et même si aujourd'hui, j'habite pas avec eux, ça le reste, quoi. Donc, c'est toujours important à la maison.
Ouais, alors ça, on imagine que c'est pour l'après-rugby, mais est-ce que tu as une idée, du coup, de ce que tu voudras faire plus tard ?
Ben non, pas plus que ça. C'est pas que pour l'après-rugby, c'est pendant le rugby aussi, parce que ça me permet de faire autre chose, de quand même me cultiver ou apprendre autre chose qui m'intéresse, parce qu'il n'y a pas que le rugby comme centre d'intérêt. Et voilà, donc je n'ai pas une vision à 10 ans, mais je sais quelle matière et sujet m'intéresse, donc j'essaie d'apprendre sur ça, mais voilà, sans plus de projection.
Bon, ben parfait. En tout cas, félicitations, Joël, pour ce double cursus, j'ai envie de dire, hein, à la fois le rugby pro et les études. Vraiment, chapeau. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur 100%.
Merci, merci beaucoup. Merci à vous.
Merci Joël.
Merci messieurs.
Merci Karine.
Merci.
Prochain rendez-vous Gilles.
Samedi dès 14h30 sur 100% parce qu'il y a un gros Stade Toulousain Racing 92, 22e journée du Top 14 et ensuite ben, ce sera mercredi prochain. Vous en avez l'habitude après le journal de 19h, 100% Rouge et Noir.
L'émission 100% Rouge et Noir, c'est tous les mercredis à 19h sur 100%.